Sébastien Lifitte, vous êtes présent à Avignon pour accompagner l'avant-première de Madame Hoffman, votre dernier film, votre dernier documentaire. Vous les déterminez comment, vos sujets de film, les thèmes au départ?
Il n'y a pas vraiment de règles en fait, c'est surtout des rencontres qui amènent des films. Alors là, c'est vrai que pour Madame Hoffman, quand j'ai terminé adolescente, je me souviens qu'à la toute fin de la scolarité de Anaïs, une des deux ados, elle a fait un stage dans un hôpital parce qu'elle veut devenir aide-soignante et plus tard infirmière. Et tout d'un coup, je l'ai vue avec ces femmes qui l'ont accueillie et qui l'ont formée. Et j'ai aimé beaucoup ce qui se passait entre elles. Cette transmission d'un savoir. Tout d'un coup, j'ai imaginé Anaïs avec 20 ans de plus. J'ai imaginé sa vie, elle dans ce métier. Et ça a fait naître un désir de film. Tout d'un coup, j'ai eu envie de faire le portrait d'une infirmière sur une année. Une chronique à la fois de son travail, mais aussi d'elle, en fait, de sa vie privée. Voilà, un portrait de femme.
Sylvie, j'ai vu que vous l'aviez recrutée, vous l'aviez trouvée par casting. C'est curieux de faire un casting pour un documentaire.
Non, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'une fois que j'ai eu cette idée, le Covid est arrivé. Et alors, les hôpitaux se sont complètement refermés, sont devenus de véritables forteresses. Et donc, accéder au personnel soignant, c'était très compliqué. Il s'est trouvé que j'ai rencontré une directrice de casting sur Marseille, qui s'appelle Sandrine Lapuyade, et qui est juste extraordinaire. Elle connaît tout le monde dans la ville, elle est pleine d'idées, de ressources. On a réussi grâce à elle, pendant le Covid, à faire passer des annonces et à parler aux gens par téléphone, par Zoom, par les réseaux sociaux. Bref, on ne s'est pas arrêté en fait. Et un jour, Sylvie en fait, a vu l'annonce. Et elle a appelé pour proposer des infirmières qu'elle connaissait. Elle n'appelait pas du tout pour elle, en fait. Et il s'est passé un truc dans cette conversation qui a fait que Sandrine m'a dit « Je pense qu'il faut que tu la rencontres. Elle a quelque chose, cette femme. » Et c'est vrai que quand je l'ai rencontrée, j'ai vraiment eu un coup de foudre, en fait. Elle était complètement, je dirais, habitée de la première vague du Covid qui venait de se dérouler. Elle avait fait un AVC à cause du stress au boulot. Et elle était à la fois en colère, survoltée, complètement sans filtre, enfin à la Marseillaise quoi. Et j'ai adoré cette femme. Je me suis dit, ah, elle a vraiment quelque chose. Et ensuite, quand les hôpitaux ont réouvert, je suis allé la voir dans son service, j'ai rencontré son équipe, j'ai vu comment elle était au travail, et je me suis dit, bon bah ça c'est un film. Il y avait un film évident pour moi à faire. Et donc je lui ai dit, tu sais Sylvie, cette femme que je cherche depuis des mois, en fait je pense que c'est toi. Et là, elle a failli tomber de sa chaise, quoi. Elle ne comprenait pas. Elle me dit, mais moi, je suis une femme banale. J'ai rien d'extraordinaire. Pourquoi tu veux faire un film sur moi? Et je lui dis, parce que je sens que tu incarnes non seulement ce métier à plein d'infirmières, mais il y a quelque chose dans ta personnalité, dans ce que tu es. C'est intuitif, que je trouve passionnant. Et comme elle est un peu joueuse, elle est assez aventurière, elle m'a dit, bah écoute, on n'a qu'à essayer, on verra bien. Et voilà, et le film a commencé comme ça.
Donc il y a Sylvie au travail et puis il y a Sylvie dans l'intimité avec son époux, avec sa mère, avec sa fille également. On est dans le service d'oncologie de l'hôpital Nord de Marseille. On voit par moments quelques malades, on suit même un corps sans vie qui est évacué de l'hôpital. Mais la plupart du temps, on reste dans les couloirs ou dans les salles communes du personnel soignant. C'est-à-dire que c'est une partie du travail que vous filmez, c'est pas vraiment le travail de thérapie, mais c'est les à côté d'une certaine façon.
Alors oui et non. En fait, le film, il est plus centré sur l'équipe soignante que sur les patients. Alors des patients, il y en a évidemment dans le film, on en voit. Mais j'ai pas voulu, comment dire, me concentrer sur les malades, en fait. Ce qui m'intéressait, c'était vraiment de comprendre ce métier, ce qu'il demande à chacun. La charge mentale, la charge physique, ce don de soi permanent. C'est aussi une manière de raconter le fonctionnement d'un hôpital. Et pour moi, ce qui est passionnant dans un hôpital, c'est que c'est filmer la société française, en fait. C'est un lieu miroir de la société. Tout le monde va à l'hôpital. C'est un lieu que tout le monde, à un moment, sera amené à croiser dans sa vie. Donc, c'est un lieu qui est essentiel à toute société, à toute communauté. Et moi, j'ai commencé le tournage autour de la deuxième vague du Covid, donc à un moment quand même très particulier. Voilà, ça a duré un peu plus d'un an. Et là aussi, on voit une évolution, je dirais, dans les prises de conscience de Sylvie par rapport à l'époque, par rapport à ce qui se passe, par rapport à sa carrière aussi. Et ça, c'est vraiment la chance que peut donner le cinéma, c'est-à-dire de filmer dans le temps. d'observer les transformations, les prises de conscience.
Dans vos films, je parle des documentaires invisibles, Bambi, adolescente, ou même dans Madame Hoffman, à chaque fois, il y a des biographies. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du film, vous racontez la vie, où la personne raconte sa vie. On sort des photos, il y a des documents, enfin, il y a toujours une sorte de charpente biographique dans vos documentaires.
Bah pour moi, c'est des films portraits, et je ne veux pas juste filmer le temps présent. Une vie, elle est constituée de toutes ces strates, de ce qu'on a été enfant, adolescent, à 20 ans et plus. Et pour Sylvie, ce qui était passionnant, c'est qu'elle a 40 ans de métier quand même. C'est rare. Beaucoup d'infirmières, elles lâchent, elles craquent. Hein. Alors ça, c'est sûr qu'elle est blindée, mais les infirmières, elles tiennent en moyenne 7 ans à l'hôpital public. Et Sylvie, elle a tenu 40 ans. Donc vous imaginez la vie qu'elle a en elle, toutes ces vies qu'elle a croisées, toutes ces choses qu'elle a vues. Et ça, pour moi, c'était d'une richesse incroyable. Donc, je voulais un peu raconter aussi tout ça. Ce n'est pas juste quelqu'un que je saisis dans le temps présent de sa vie. C'est un parcours de vie. Et puis après, la chance que j'ai, c'est que j'ai croisé sa mère, qui est vraiment un personnage, qui a été aussi infirmière à l'hôpital. Donc, on voit deux générations de femmes. Et ça aussi, c'était passionnant. Comment dire, elles n'ont pas vécu l'hôpital de la même manière. Elles n'ont pas la même vision de l'hôpital, de ce que c'est que leur métier et tout ça. Et justement, je trouve que, comment dire, pas leur désaccord, mais en tout cas, leur point de vue à chacune est vraiment passionnant. Puis il y a cette relation mère-fille que je trouvais très savoureuse. Micheline a un humour pas possible. J'ai l'impression qu'il y a des punchlines toutes les deux secondes. Parce qu'elle est vraiment comme ça, quoi. Il y a cette langue à Marseille. Hein. On a l'impression qu'on est dans du pagnol en permanence, en fait. Que ce soit à l'hôpital, que ce soit dans la famille de Sylvie. Ils ont une sorte d'ironie, un regard sur leur propre vie que je trouve merveilleux.
Moi, ce qui m'a frappé, c'est le rapport au travail. Parce que finalement, quand on voit Sylvie avec sa mère, bon, elles ont des différences, mais en même temps, on sent qu'au niveau du boulot, elles sont sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire qu'elles ont vécu leur travail comme un véritable sacerdoce. Par contre, lorsqu'on entend discuter les aides-soignantes et les infirmières autour de Sylvie, elles disent « Oui, attendez, moi je ne veux pas passer toute ma vie ici, puis j'ai une vie à côté. » On a l'impression qu'il y a quand même une cassure au niveau de l'engagement entre les générations qui ont précédé et la nouvelle génération.
Non, c'est très juste ce que vous dites. En fait, il y a, je dirais, une vraie rupture de génération entre celle de Sylvie et celle qui arrive, qui est même déjà là. À tel point d'ailleurs que Sylvie s'est même posé la question, dans le fond, si c'est pas elle qui a finalement fait des erreurs. C'est-à-dire que je vois que la génération de Sylvie, par exemple du professeur Astoul ou du professeur Duteau, avec qui elle travaille dans le service, ce sont des gens qui ont tout donné, absolument sans limite, jusqu'à je dirais, l'épuisement. Ils ont été vraiment pressés comme des citrons. Et l'hôpital, pour eux, c'est tout. Ça a structuré leur vie. Et on voit que pour la nouvelle génération, l'hôpital n'est pas tout. C'est un travail, mais ils veulent avant tout se préserver. Ils veulent avoir une qualité de vie. Il n'est pas question d'être dans ce rapport de sacrifice par rapport à leur métier. Donc c'est une nouvelle donne, en fait. Et ça a beaucoup déstabilisé Sylvie de voir cette nouvelle génération arriver, qui est plus revendicatrice, beaucoup plus soucieuse de leur qualité de vie, ce qui n'a jamais été en fait son cas. Le problème, c'est que l'hôpital, on pourrait dire, c'est presque une utopie sociale et politique. C'est quelque chose qui a été inventé après-guerre. Et on voit bien qu'aujourd'hui, l'hôpital est en crise et qu'il y a quelque chose qui va être compliqué justement avec cette nouvelle génération par rapport à ce que demande en fait ce lieu, les moyens qu'il demande en permanence, en moyens humains, en moyens techniques, en médicaments, etc. La médecine, c'est un puissant fond, en fait. Il y a tout le temps des nouvelles molécules, tout le temps des nouvelles machines qui coûtent des millions d'euros, etc. Donc la durée de nos vies se rallonge. Donc tout ça, c'est un défi permanent. Et on voit bien que finalement, cette santé pour tous, à laquelle on est si attaché en France, parce qu'elle construit une justice sociale, et surtout, elle amène une paix sociale dans le pays, comme pour l'éducation, ben, toute cette question, justement, de cette santé pour tous, elle est probablement très fragilisée aujourd'hui, voire même remise en cause avec cette nouvelle génération. Et là, je ne sais pas comment les politiques arriveront à trouver la bonne équation, la bonne solution, mais c'est une vraie question. Et j'ai peur que si on va vers un système de plus en plus privé, c'est-à-dire un système anglo-saxon, qu'on crée une injustice terrible d'une santé à deux vitesses, que je trouverais profondément injuste.
Il est vrai aussi que vous nous montrez un milieu essentiellement féminin. Il n'y a que le chef, c'est un homme, je crois que c'est le professeur Astoul d'ailleurs. Mais finalement, cet homme, il est aussi sympa que les femmes. C'est assez intéressant aussi, parce que finalement, il y a une vraie complicité entre le chef qui est un homme et les femmes qui sont plus ou moins ses subalternes.
Bah, ce service, c'est un vrai collectif, quoi. Sylvie, elle l'a construit vraiment à son image. Elle est un peu une sorte de maman poule, on pourrait dire, avec toutes ses filles. Elle les protège énormément. Il y a quelque chose que je trouve tellement exemplaire dans la façon qu'elle a eue de faire son métier, en fait, de faire son travail. Et ça se sent tout de suite quand on arrive dans le service. C'est aussi pour ça que j'ai voulu faire ce film-là, parce que j'ai adoré cette équipe, j'ai adoré ce service, et de voir Sylvie au milieu de tout ça. Donc c'est vrai qu'il y a une forme, on pourrait dire presque d'idéal, et Dieu sait pourtant que c'était un service sensible, mais il y a une joie de vie, il y a une complicité entre eux, que je trouve assez démente. Après, c'est Marseille. Hein. Marseille, c'est une ville assez allumée quand même. C'est une ville rebelle, c'est une ville voilà, où les gens sont sans filtre. Donc, ça mène de l'ambiance.
Alors, vous avez promené votre caméra quasiment partout, dans le service, dans les chambres. Après, vous suivez Sylvie lorsqu'elle va retrouver son mari qui vit dans les Hautes-Alpes parce qu'il a eu des problèmes de santé. D'ailleurs, ils ont tous des problèmes de santé, plus ou moins graves. La mère et Sylvie aussi. Vous la filmez avec sa mère. Et à un moment, il y a une ou deux séquences où vous êtes carrément au pied de son lit. C'est pas un peu intrusif, ça ?
Si, bah, j'avais toujours dit à Sylvie, il faudrait que tu acceptes par moment que je puisse vraiment rentrer dans l'intimité de ta vie. Alors, il ne s'agit pas de la filmer nue sous sa douche. Hein. Effectivement, filmer le sommeil, filmer... parce qu'il faut raconter aussi la fatigue, l'épuisement, ces moments de respiration, on pourrait dire. Les échapper quand elle part voir son compagnon dans les Alpes. Puis toute cette complicité avec sa mère. En fait, tout ça, pour moi, toutes ces choses du quotidien... très personnelle, bah ça la raconte déjà tout simplement, ça l'incarne en dehors de cette fonction d'infirmière dans laquelle elle est la plupart du temps. J'avais pas envie seulement de raconter justement la fonction, le métier, je voulais raconter la personne en fait. C'est un vrai portrait de femme quoi.
Il y a aussi le rapport à la maladie et à la mort, puisque finalement entre la mère et Sylvie, le rapport à la mort est très différent, c'est-à-dire que Sylvie serait plutôt pragmatique, c'est-à-dire qu'elle est prête à prendre des mesures assez radicales sur son corps pour pouvoir vivre plus longtemps, alors que chez sa mère, on sent qu'il y a une forme de résignation fataliste.
Complètement. Je pense que la mère de Sylvie appartient à une génération où probablement aussi que la question religieuse joue. C'est-à-dire que dans le fond, elle est fataliste, on doit accepter son destin. On tombe malade, et ben c'est comme ça. Et on n'a pas à lutter, on a accepté dans le fond ce que la vie nous apporte. Alors que Sylvie est diamétralement opposée, c'est-à-dire qu'elle, elle estime que la médecine permet des actes préventifs, permet aussi de réparer les corps, de soigner, etc. Donc tout ce qui est possible de faire pour pouvoir prolonger la vie et se sauver d'une certaine manière, elle embrasse ça totalement. Et c'est là où on voit qu'il y a... là encore, une sorte de conflit de génération, et où le rapport à la médecine et au prolongement des vies est complètement différent d'une génération à l'autre. Micheline, dans le fond, elle a connu des gens dont l'espérance de vie était assez courte, en fait. Après-guerre, les gens mouraient relativement jeunes. Hein. C'est finalement, depuis les 20-30 dernières années, qu'il y a vraiment un accroissement comme ça, de la durée de vie, que la médecine a fait des bonds quand même prodigieux. Et elle permet, alors certes, d'accompagner les vies totalement médicalisé, mais quand même de donner à la plus grande partie des gens des vies longues.
J'ai vu un cinémascope, ce qui peut paraître paradoxal, puisque la plupart du temps, on est dans des espaces assez exigus, sauf lorsqu'on est dans la montagne ou au bord de la mer. Pourquoi le choix du cinémascope, alors que généralement, on pourrait presque penser à un format plutôt 1.33 d'une certaine manière ?
D'abord, le formatscope, c'est un format que j'utilise souvent, petite fille, théanscope, adolescente, théanscope, et Madame Hoffman aussi, parce que c'est un format dans lequel je suis... à l'aise, on pourrait dire. Après, il y a une chose que j'aime aussi, c'est que c'est un format qu'on utilise généralement pour la fiction, justement pour les grands espaces, pour les grands récits romanesques. Donc c'est un peu une manière pour moi d'utiliser un peu la grammaire de la fiction, je dirais même les outils de la fiction, et de projeter ça sur du documentaire et des personnages du quotidien, des anonymes, et d'une certaine manière de leur donner une présence comme des héros de cinéma. Donc ça déplace les choses et ça permet pour moi, il y a une forme de justice d'une certaine manière, de les mettre véritablement dans la lumière, de leur donner une importance et de les magnifier. Ouais.
Il y a un film de vous qui m'a beaucoup marqué, qui a bientôt 10 ans, c'est Bambi. Parce que d'abord le personnage est assez extraordinaire, très troublant, très séduisant. Et puis ça parlait de la transidentité. On peut dire que vous avez été vraiment un pionnier à creuser le thème de la transidentité, qui maintenant, je dirais, est presque un peu à la mode, moins au cinéma mais au théâtre. Il y a souvent des pièces maintenant où on peut jouer des femmes par des hommes, où il y a une version des Bonnes à Paris, où Madame est interprétée par justement un transsexuel. Comment vous réagissez, vous qui avez creusé ce sillon depuis le début, qui en parlait d'une manière extrêmement sincère et profonde. Est-ce que vous êtes plutôt heureux de ce qui se passe en ce moment ou est-ce que pour le moment vous n'êtes pas un peu irrité ?
Ah non, irrité pas du tout. Non, je suis très heureux que chacun essaye, dans le fond, d'embrasser la question de l'identité de genre, en fait. C'est-à-dire, l'identité de genre, c'est aussi poser la question des normes de représentation. Qu'est-ce que c'est que la féminité ? Qu'est-ce que c'est que la masculinité ? Qu'est-ce que c'est que nos éducations ? Comment on élève nos enfants ? Quels sont ces modèles, ces injonctions dans lesquelles on grandit ? Et si on peut y réfléchir, déjà, les remettre en cause, c'est encore mieux. Pour essayer d'inventer de nouveaux modèles, peut-être de prendre conscience à quel point en fait on formate les éducations et à quel point les enfants sont comme soumis de devoir, dans le fond, se soumettre presque à des lois, on pourrait dire. On est un homme, on est censé aimer telle chose, porter telle couleur, écouter telle musique, avoir tel type de vocabulaire, on est une fille, pareil si vous voulez. Et ça, ça s'opère quand même dès le CP. Parce qu'à la maternelle, on sent encore qu'il y a une sorte de monde un peu flottant comme ça, où on laisse l'enfant sans trop de références, sans trop, je dirais, de modèles. Mais dès le CP, on voit bien que tout ce genre. Et il y a pour moi là-dedans quelque chose que je trouve insupportable. Parce que dans le fond, c'est une manière de retirer à l'enfant une liberté d'expérimenter, d'exprimer, de jouer, de dire. Parce que les enfants comprennent tout de suite quand même la règle du jeu. Même si on ne leur explique pas, ils voient ce qui se passe autour. Ils les sentent, ces injonctions, et ils marchent au pas. Ils veulent être intégrés, ils ne veulent pas tout d'un coup être rejetés, être montrés du doigt et être justement le bizarre ou le marginal ou le... Non, ils ont un désir d'être au contraire aimés, acceptés d'une certaine manière. Donc ils ont peur, évidemment, du rejet. Donc pour moi, s'il y a des spectacles, des livres, des expositions, des films qui viennent poser toutes ces questions, tant mieux.
Le film a été produit, quand là on revient à Madeleine Hoffman, il a été produit par Agathe Film, c'est la maison de Robert Guédiguian. Marseille, à un moment, on cite l'Estac dans le film. C'est vrai que c'est un beau film, laïque et républicain, votre film. C'est un film complètement guédiguianesque.
Ah bah ça, pour moi, c'est un très beau compliment, parce que je suis un républicain. Non, je suis profondément laïque et républicain, donc ça, pour moi, c'est le plus beau compliment. D'ailleurs, on a fait l'avant-première à l'Estac, au cinéma L'Alhambra, c'était super. Un cinéma très populaire, dans un quartier populaire, et voilà, et c'était très, très, très joyeux, très festif. Bah Marseille, c'est Marseille, quoi. C'est vrai que ce sont les terres de Robert Guédiguian. Bah peut-être que je marche dans ses pas d'une certaine manière à travers ce documentaire.
Elle a aimé Sylvie ?
Bah Sylvie, en fait, quand elle a vu le film, elle m'a dit « Ah bah j'en reviens pas, en fait ma vie c'est une histoire ». Je lui dis « Pourquoi t'en doutais ?» Elle me dit « Bah oui, pour moi ma vie c'était pas une histoire, j'arrivais pas à comprendre comment t'allais faire avec toutes ces scènes que tu tournes, bah une histoire ». Et donc ça, ça l'a un peu bluffé quand même. Elle a tout d'un coup pris la mesure, en fait, probablement de tout ce qu'elle avait traversé et qu'effectivement, qu'elle a une histoire à raconter. Mais je dirais, dans le fond, c'est le propre de chacun. Il suffit à un moment de se poser avec une personne et de l'écouter vous raconter sa vie. Il y a une histoire, évidemment, pour chaque personne et qui pourrait faire un film absolument magnifique. Et moi, porter un regard comme ça sur ces anonymes, l'espace d'un temps et d'en faire un film, c'est une chose qui me passionne.
Eh bien, l'avant-première.
Merci.